des unions d'église, des œuvres, des institutions et des mouvements. Et puis, depuis quelque temps, des églises isolées, comme la nôtre. Et ce qui est une des marques aussi du protestantisme, c'est la multiplicité des œuvres. Pour un petit protestantisme comme le protestantisme français, c'est assez remarquable de voir combien d'œuvres nombreuses à caractère social, œuvres de jeunesse, œuvres par la littérature, etc., etc., eh bien, ces œuvres ont été extrêmement nombreuses. Il faut dire que beaucoup d'entre elles datent du siècle dernier. Le siècle dernier, en effet, le 19e siècle, a été une période de renouveau pour le protestantisme français. D'abord parce que, avec l'avènement de la Troisième République, le protestantisme français, enfin, connaissait une sorte de légitimisation. Après la Révolution, bien sûr, il y avait déjà eu une possibilité de travail qui n'existait pas jusqu'alors, même si dans les dernières décennies de l'Ancien Régime, les choses s'étaient considérablement assouplies, et l'infortuné Louis XVI en particulier avait promulgué un peu avant la Révolution un décret qui pratiquement permettait aux protestants de pratiquer librement leur religion. Mais en fait, officiellement, le protestantisme n'était pas une religion licite, et en particulier, le catholicisme restait religion d'État, avec tous les privilèges qui étaient attachés avec cette notion de religion d'État. Avec la Révolution française, bien sûr, les choses changent quelque peu, dans ce sens qu'il n'existe plus de religion d'État, et le protestantisme, en tant que religion nouvelle, en religion en tout cas qui a fait un certain nombre de preuves dans le passé, eh bien, est reconnu comme licite avec, par exemple, le judaïsme. Avec Napoléon, il y a une nouvelle étape, dans ce sens que Napoléon établit avec les cultes en France un régime de concordat, au terme desquels l'État reconnaît et subventionne un certain nombre de cultes qui sont déclarés cultes officiels. Ces cultes sont au nombre de trois, le culte catholique, le culte protestant et le culte juif. Pour ce faire, Napoléon, par exemple, crée le consistoire central du judaïsme. Le concordat, évidemment, avait des avantages d'un côté comme de l'autre. Le premier de ces avantages pour les églises qui étaient concordataires, c'est qu'elles étaient donc reconnues officiellement, elles avaient le droit de travailler, et en même temps, elles avaient la possibilité d'être subventionnées par l'État, donc elles étaient à l'abri du besoin sur le plan financier. À côté de cela, il y avait un certain nombre de restrictions, et en particulier, il y avait aussi le désir pour le pouvoir de contrôler ce qui pouvait se faire dans ce domaine-là. Donc c'était une situation qui était quelque peu ambiguë, et dès cette époque-là, un certain nombre d'églises protestantes ont refusé le système concordataire et ont rompu avec le protestantisme officiel. C'était le cas en particulier de ce qu'on appelle jusqu'à aujourd'hui les églises libres. Elles étaient dites libres, tout simplement parce qu'elles étaient libres par rapport à l'État, elles se suffisaient à elles-mêmes, elles étaient subventionnées par les dons de leurs membres, de leurs fidèles. Bien entendu, en 1905, après la séparation de l'Église et de l'État, donc la remise en cause du concordat, ceci n'est plus, cette appellation d'Église libre n'avait plus grande signification, puisque toutes les églises, finalement, se retrouvaient dans la même situation. Mais les libristes sont restés une des composantes importantes du protestantisme évangélique en France. Ils étaient parmi les plus anciennes églises évangéliques qui ont gardé donc la ligne évangélique au moment de toutes les querelles théologiques sur le modernisme qui ont marqué le libéralisme, qui ont marqué le siècle dernier et le début du siècle. Alors, Avec l'avènement de la Troisième République, eh bien, le protestantisme connaît un essor certain. Pourquoi ? Tout simplement parce que beaucoup de protestants sont républicains, les catholiques sont royalistes, et parce que justement la droite catholique s'identifie avec les ennemis du régime républicain, les protestants, eux, bien entendu, ont plus tendance à se situer dans la gauche républicaine de l'époque. Ceci se traduit par différentes, sur le plan pratique, par un certain nombre de réalités. Premièrement, la part importante que les protestants prennent dans la nouvelle république. On compte un nombre important, proportionnellement, de ministres protestants au XIXe siècle dans les différents gouvernements qui vont constituer les gouvernements de la Troisième République. Un certain nombre d'entre eux iront jusqu'à participer à l'élaboration des institutions de la Troisième République. Ils en seront les farouches défenseurs et les farouches gardiens contre toutes les tentatives de restauration monarchique qui marqueront le XIXe siècle. Et un deuxième plan sur lequel va s'exercer justement cet esprit républicain du protestantisme français du XIXe siècle, ce sera le domaine de l'enseignement laïque qui sera créé par Jules Ferry, comme on le sait, et qui va se trouver avoir l'appui du protestantisme français, tellement l'appui du protestantisme français que le protestantisme français va fournir une partie importante des cadres de l'enseignement laïque. C'est le début de la querelle scolaire que l'on connaît bien en Bretagne, et l'Église catholique conserve ses propres écoles. En face de cette Église confessionnelle, nous trouvons l'enseignement laïque, mais qui est fortement, n'est-ce pas, constitué par des cadres protestants. Et cette influence du protestantisme dans l'enseignement laïque du XIXe siècle et du début du XXe siècle se traduit par l'émergence de ce que l'on appelle à l'époque la morale laïque. Qu'est-ce que c'est que la morale laïque ? C'est tout simplement la morale évangélique, mais qui est, comme son nom l'indique, laïcisée, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de référence à Dieu. Mais en fait, cette morale laïque qui fera que finalement les laïcs auront à cette époque-là un degré de moralité relativement important est due essentiellement à l'influence du protestantisme au sein de l'enseignement laïque. Évidemment, de nos jours, ils ont quelque peu évolué, d'abord parce que les protestants eux-mêmes ne savent plus trop bien où ils en sont dans le domaine politique, et puis deuxièmement parce que sur le plan des mœurs aussi, la société civile et laïque a beaucoup évolué, et qu'aujourd'hui il est difficile de trouver beaucoup de rigueur morale dans la plupart de ceux qui se réclament justement de la laïcité. Mais à cette époque-là, évidemment, c'était très très fort. Alors, il est évident que la République sera tout à fait reconnaissante au protestantisme d'adopter cette attitude-là. Et la République appréciera beaucoup la contribution du protestantisme à cette évolution qui est la sienne. Et c'est la raison pour laquelle les institutions nationales, les institutions républicaines vont souvent d'ailleurs favoriser le protestantisme, souvent au détriment du catholicisme. Donc, selon le vieil adage, n'est-ce pas, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Et les républicains, évidemment, pour les républicains, la bête noire, c'était l'Église catholique, donc automatiquement, puisque les protestants étaient la bête noire des catholiques, eh bien, il fallait les favoriser contre les catholiques. Bon, c'était peut-être pas évidemment très très formidable comme démarche, ni comme motivation, mais il est certain qu'à cette époque-là, le protestantisme en a beaucoup profité. Et c'est l'époque où il y a, comme nous disions tout à l'heure, une renaissance du protestantisme. Bon, la première époque, évidemment, c'était la Réforme, le XVIe siècle, un peu moins le XVIIe, un essoufflement certain du protestantisme. une timide tentative de renaissance après la Révolution et sous le concordat napoléonien. Et puis ensuite, évidemment, sous la Troisième République, ça a été le grand essor du protestantisme. Et là, le protestantisme s'est répandu d'une manière très importante au sein de la société française. Il y a eu une reconquête, finalement, des positions qui avaient été perdues à la suite de la révocation des Édits de Nantes et tout ce qui en avait suivi. Reconstitution d'un mouvement d'évangélisation protestante très important qui a permis l'implantation de nouvelles églises en dehors des régions qui étaient restées traditionnellement protestantes depuis la Réforme, notamment dans les grandes villes et dans les grands centres urbains. Et puis ensuite, donc, création d'une multiplicité d'œuvres, d'institutions et de mouvements. La première de ces œuvres, de ces institutions, qui a son origine à cette période-là, c'est la Société centrale d'évangélisation. Il y a eu, à cette période-là, et il faut le dire aussi, ça a contribué aussi pour une part très importante dans l'expansion du protestantisme au XIXe siècle, car les circonstances politiques étaient favorables, nous l'avons vu, au développement du protestantisme. L'état d'esprit aussi était favorable, dans ce sens que les laïcs, qui étaient quand même des gens encore moraux, avaient une sympathie naturelle pour le protestantisme, et non seulement une sympathie comme l'ont aujourd'hui beaucoup de laïcs d'ailleurs, mais en tout cas une ouverture d'esprit qui faisait qu'ils étaient des gens dont on pouvait penser qu'ils pourraient se convertir au protestantisme. Et il y a eu des gens, des protestants au XIXe siècle, pour penser que le moment était venu de voir des millions de Français se tourner vers le protestantisme. Ce n'était pas utopique de penser cela. Et pour ajouter à ces conditions politiques favorables, il y a aussi des conditions spirituelles qui étaient favorables. C'était l'époque des réveils. Des réveils au sein du protestantisme, notamment du protestantisme anglo-saxon. C'était l'époque où il y avait donc le réveil méthodiste, et puis ensuite, les réveils qui en ont résulté, les réveils en Amérique avec Finney et Moody, ensuite en Angleterre, le mouvement d'armée du salut et l'extraordinaire réveil qui a marqué finalement l'évangélisation du monde ouvrier. Car le XIXe siècle est aussi le siècle où se pose d'une manière très très aiguë la question ouvrière, c'est aussi le siècle de l'essor du marxisme et du socialisme, et les protestants, n'est-ce pas, sont très concernés justement par ce problème du monde ouvrier et celui de l'évangélisation du monde ouvrier. En Angleterre, c'est l'époque de tout l'effort de l'armée du salut qui était au départ un mouvement d'évangélisation populaire, avec la création, comme disait William Booth, le fondateur de l'armée, qui s'était nommé général, de ce qu'il appelait les boutiques de salut, c'est-à-dire que dans les quartiers populaires de Londres, au milieu là où il y avait le péché le plus noir, l'ivrognerie, la prostitution, les bagarres, etc., eh bien, on envoyait une équipe de soldats et d'officiers, comme on disait, qui créaient un poste avancé, en première ligne. Ils étaient en première ligne, avec tout le vocabulaire militaire qui était employé. Et alors, on louait une espèce d'arrière-boutique quelconque, pas chère, et puis qui était en général assez miteuse. Et puis, alors là, avec les instruments de musique, comme il y avait les salutistes, eh bien, on rameutait le monde, n'est-ce pas, en jouant des airs entraînants sur la fanfare, en défilant en grand uniforme, bannière déployée au vent avec le grand drapeau sang et feu, comme disaient les salutistes, et puis ensuite, ils prêchaient l'évangile. Et là, c'était un véritable authentique réveil qui se manifestait également par les baptêmes du Saint-Esprit, qui n'étaient pas reconnus comme tels parce que la théologie du baptême du Saint-Esprit n'avait pas encore été redécouverte, mais qui étaient des manifestations charismatiques certaines. Et c'est ce qui a permis d'ailleurs, par exemple, ces délivrances instantanées de buveurs, de gens pêcheurs de tout poil, n'est-ce pas, qui étaient instantanément délivrés, instantanément convertis, et qui, presque du jour au lendemain, se mettaient à leur tour à prêcher l'évangile à leurs anciens camarades de péché. Et donc, ces différents mouvements ont eu un impact certain sur la France à deux niveaux. D'abord parce que finalement l'Angleterre était quand même proche de la France et qu'il y avait des contacts nombreux. Et puis deuxièmement parce que d'Angleterre aussi venaient des missionnaires qui considéraient que le Seigneur les appelait à partager ce qu'ils vivaient en Angleterre sur le continent et d'évangéliser en particulier le peuple de France. Si bien que le protestantisme français a vu influer en son sein un sang chaud, si j'ose dire, venu justement de ces réveils anglo-saxons, en particulier des réveils anglais. C'est aussi l'époque où est né le mouvement darbiste, donc avec le mouvement des frères de Plymouth, la redécouverte justement de ces grandes réalités de la marche avec Dieu, de la sanctification, puis alors évidemment les controverses qui en avaient découlé sur justement la question de l'Église. Et en particulier parmi les frères de Plymouth, c'était surgi un certain Darby qui lui enseignait que la division de l'Église faisait qu'il fallait conclure que, puisqu'on n'avait jamais réussi à unifier l'Église tout entière, eh bien le temps de l'Église était terminé. C'était fini. Et maintenant, ce qu'il fallait, c'était sortir de toutes les églises pour créer l'assemblée du Seigneur, les véritables brebis du Seigneur, qui n'auraient plus de sacrements, qui n'auraient plus de ministère, mais qui se mettraient à part des autres églises uniquement pour attendre le Seigneur. Et le mouvement darbiste avait connu un grand essor, et les réveils qui avaient marqué justement le mouvement de Plymouth en Angleterre avaient eu un impact en particulier en Suisse. Et la Suisse romande, avait été visitée par de puissants réveils, justement, à partir de ce qui s'est passé en Angleterre. Darby était lui-même venu s'installer là, et ensuite, lui-même avait essayé de créer un mouvement darbiste en France. Pour ce faire, il avait traduit en français la Bible, qui existe aujourd'hui encore, qui est la version Darby, bon, qui était une version extrêmement littérale, dans un français qui n'était pas toujours très très facile, d'abord parce que le français n'était pas la langue maternelle de Darby, et puis deuxièmement parce que dans son souci de coller au littéralisme biblique, eh bien, il employait parfois des formules et des tournures qui étaient un petit peu difficiles à comprendre, et qui le sont encore plus aujourd'hui pour les gens du XXe siècle qui parlent un français qui a quelque peu évolué depuis l'époque de Darby. Mais il est certain que la conjonction de ces différents mouvements, eh bien, a provoqué un essor important du protestantisme en France, parce que ces réveils ont eu un impact dans toutes les églises qui représentaient le protestantisme français. Le protestantisme français qui était resté relativement monolithique à cette époque-là et qui, au XIXe siècle, va se diversifier davantage, parce que, en dehors de l'Église réformée, justement, par l'apport des réveils anglo-saxons, il va y avoir création justement d'églises nouvelles. Au début du siècle, ce sont d'abord les églises baptistes. Les églises baptistes qui sont un mouvement anglo-saxon à l'origine et qui vont s'implanter dans le nord de la France après la bataille de Waterloo et la fin de l'aventure napoléonienne, donc dans la fin des années 1815 à 1820. Lorsque des soldats de l'armée anglaise qui sont des troupes d'occupation, donc dans la région de Waterloo et puis la région du nord de la France, vont rendre témoignage de l'Évangile, certains d'entre eux sont des baptistes, et ils vont amener la conversion d'un certain nombre de Français et de Belges, et vont se créer donc des églises de type baptiste, qui vont faire appel à des pasteurs anglais au départ pour les structurer, pour les créer, et c'est ainsi que les églises baptistes vont, dans un premier temps, être circonscrites géographiquement dans la région du nord de la France. C'était vrai jusqu'à une époque encore relativement récente. Le réveil méthodiste va envoyer également ses missionnaires en France. Le réveil méthodiste mord drapeau sur la France, n'est-ce pas? Et finalement, le centralisme français reprend le dessus, et le rêve d'un certain nombre de leaders du protestantisme français, de voir plusieurs millions de Français se tourner vers le protestantisme, n'aura pas lieu. Parce que joueront en fin de compte les vieux réflexes anti-protestants qui sont profondément ancrés dans l'esprit du peuple français. Mais malgré cela, bien entendu, il n'y aura pas des millions de personnes qui se convertiront, mais il y aura quand même des milliers. Donc vont se créer un certain nombre d'églises méthodistes, peu nombreuses, mais finalement qui vont réussir à créer une implantation relativement importante en France, dans la région du Midi, surtout le Midi qui est traditionnellement protestant. Les églises donc de frères, comme on les appelle, d'arbistes, vont aussi se créer d'abord au contact médial de la Suisse, et c'est aussi dans le Midi de la France. Donc il va y avoir une grande diversité du protestantisme qui va apparaître à partir de ce moment-là. Puis ensuite, il y aura des mouvements d'évangélisation populaire qui vont intervenir dans les grandes villes de France, notamment dans la région parisienne. Je faisais allusion tout à l'heure à l'Armée du Salut qui va créer une branche française, avec d'ailleurs la générale elle-même, Madame Catherine Booth, qui lancera le mouvement d'évangélisation et qui ensuite passera le flambeau à l'une de ses filles qui aura à superviser l'ensemble de l'armée en France. Là aussi, l'impact en France sera bien moindre que en Angleterre, et ceci pour les mêmes raisons. Mais jusqu'à nos jours, l'armée du salut, dans la région parisienne, fait un petit peu partie du paysage. Et on rencontre notamment, période de Noël, n'est-ce pas, les officiers casqués, les dames avec leur chapeau tout à fait caractéristique, on appelle le chapeau à l'église. Je crois qu'il a été changé d'ailleurs depuis quelque temps, parce qu'il était un petit peu trop vieillot. Puis alors ensuite, il va y avoir, après l'affaire de la Commune, vous savez, dans les années 70 du siècle, la révolte qui a suivi la défaite française et la victoire de la Prusse en 1870 et l'élimination du Troisième Empire, il va y avoir un certain Mac Hall qui va venir évangéliser justement les milieux populaires de Paris, ces milieux sur lesquels s'était abattue la répression versaillaise après l'échec de la Commune et qui était dans un état évidemment à la fois psychique et matériel extrêmement difficile. Et un missionnaire anglais, le nom de Mac Hall, va avoir le fardeau de ces gens qui se sont révoltés au moment de l'affaire de la Commune et qui ont été durement réprimés, et il va avoir à cœur de leur apporter l'évangile, non seulement l'évangile, mais également aussi ce qui est nécessaire, le pain, etc. Vous savez que la devise des salutistes, ce sont les trois S, soupe, savon, salut. Avant de parler du salut, il faut d'abord donner aux gens à manger, ces gens qui meurent de faim, on va leur donner de la soupe. Puis avant de les évangéliser, il vaut mieux quand même qu'on leur fasse un petit brin de toilette, savon, et puis après on leur parle du salut. Bon, c'est un petit peu le principe aussi de la mission Mac Hall, qui existe encore aujourd'hui sous le nom de mission populaire. Hélas, depuis Mac Hall, évidemment, la trajectoire a été quelque peu, pas tellement dans le bon sens. Mac Hall était très très évangélique, il appelait les gens vraiment à une conversion radicale. Hein. C'était un petit peu comme l'armée du salut, c'était bien avant, c'était un peu avant l'armée du salut, mais c'était un petit peu la même démarche en fin de compte. Aujourd'hui, la mission populaire, nous allons voir dans un instant pour quelle raison, est bien complètement dédiée dans l'action politique, le marxisme et tout ce qu'on veut. Alors, il y a au milieu du 19e siècle un foisonnement d'œuvres d'évangélisation protestantes, dont certaines sont le fruit du protestantisme local, qui aussi à ce moment-là est très évangélique, et qui annonce la conversion, y compris d'ailleurs, ce qui est extraordinaire, les libéraux. Les libéraux qui sont des gens qui ne croient pas à l'inspiration de l'Écriture, mais ça ne les empêche pas de prêcher l'Évangile, d'évangéliser comme s'ils étaient parfaitement orthodoxes, d'appeler les gens à la conversion et à la nouvelle naissance, etc. Alors il est évident que ça progresse dans tous les domaines. Et c'est alors que les responsables du protestantisme français se disent, tiens, c'est un petit peu dommage qu'il y ait finalement tous ces efforts qui se fassent sans que ces efforts soient finalement coordonnés. Il faudrait qu'il y ait un organisme qui mette un petit peu d'ordre dans tout ça pour éviter qu'il y ait des choses qui fassent double emploi et qu'ensuite les gens se marchent sur les pieds. Ce serait mieux que finalement tout le monde travaille de la main dans la main et puis que finalement ces efforts soient coordonnés par un organisme central où chacun de ceux qui travaillent en France dans le domaine de l'évangélisation aurait la possibilité de se faire entendre. C'est ainsi qu'est créée la Société Centrale d'Évangélisation, qui a pour fonction justement de coordonner ces différents efforts d'évangélisation et qui s'en acquittera d'ailleurs avec plus ou moins de bonheur jusqu'au moment où elle deviendra en fin de compte un organisme de l'Église réformée. Et au lendemain de mai 68, des gauchistes vont prendre le contrôle de la Société Centrale d'Évangélisation, qui depuis lors n'aura d'évangélisation que le nom et n'évangélisera plus. Bien qu'aujourd'hui, la Société Centrale d'Évangélisation n'évangélise pratiquement plus. La Bretagne, par exemple, qui était évidemment une région tout à fait catholique, va être réévangélisée à cette période-là. Et la Société Centrale d'Évangélisation en viendra justement à prendre en charge les différentes œuvres qui vont être créées. En effet, c'est exactement le processus que nous avons évoqué qui se produit. L'évangélisation vient de l'Angleterre, parce que bon, géographiquement c'est quand même la région de France qui est pratiquement la plus proche de l'Angleterre. Deuxièmement, il y a parmi les peuples britanniques un peuple qui est proche au point de vue linguistique et ethnique des Bretons, c'est le peuple gallois. Et les Gallois vont prendre à cœur de manière tout à fait particulière l'évangélisation de la Bretagne. C'est ainsi que des missionnaires gallois viennent prêcher l'évangile au XIXe siècle, profitant justement des conditions politiques favorables dont nous avons parlé, et en même temps vont profiter de cette vague de réveil qui secoue le pays de Galles. Alors, les Gallois, vous le savez, sont d'une part presbytériens, c'est-à-dire réformés, et d'autre part évangéliques de type baptiste essentiellement. Si bien que, en même temps, les deux tendances du protestantisme gallois vont se trouver répercutées en Bretagne. Bien, l'évangélisation de la Bretagne se fait sur les côtes, parce que les missionnaires gallois abordent sur les côtes, et c'est ainsi qu'ils créent, avec l'aide des anglo-saxons, un certain nombre d'institutions, très nombreuses d'ailleurs, pour le tout petit protestantisme gallois qui agit à ce moment-là, enfin disons le petit protestantisme breton qui se trouve alors là. Bien entendu, ce protestantisme-là est uniquement soutenu de l'extérieur. Si l'Angleterre avait coupé les vivres du jour au lendemain, le protestantisme breton disparaissait, ça va de soi. Et tout ce qui se faisait justement à partir de l'Angleterre. Alors, d'abord, œuvres d'évangélisation nombreuses dans la région de la côte sud, la région de Quimper, la région de Morlaix, puis ensuite la région nord, avec un prêtre catholique qui s'était converti au protestantisme, Le Couat, qui est devenu pasteur Le Couat, et qui était évidemment soutenu aussi depuis l'Angleterre dans son œuvre d'évangélisation nouvelle. Et alors, les pasteurs bretons créent des écoles, créent toute une littérature bretonne, se mettent à militer pour ce qui est un petit peu l'autonomie bretonne, et évidemment sont aussi très très marqués politiquement du côté républicain. Évidemment, il y a des réactions très vives du clergé catholique breton et des luttes épiques alors qui ont lieu les vitres des églises, des temples, des écoles sont brisées à coups de pierre au moment des processions, etc. Les missionnaires qui font l'évangélisation en plein air sont aussi vilipendés, lapidés, dénoncés à la police, etc. On essaie d'interdire leurs réunions. Et puis, malgré tout, n'est-ce pas, les choses progressent. Et en même temps, se créent des œuvres à caractère social. Bon, j'ai fait allusion aux écoles tout à l'heure, aux écoles qui deviendront ensuite des écoles laïques au bout d'un temps, comme la plupart des écoles protestantes, car au bout d'un temps, et c'est une des caractéristiques des œuvres protestantes, c'est que ces œuvres-là, qui sont protestantes au départ, ont tendance ensuite à se laïciser. Soit parce que justement, le protestantisme étant minoritaire, finalement, des non-protestants accèdent au levier de commande, soit parce que les protestants, d'eux-mêmes, pensent que le moment est venu de laïciser les choses. C'est ainsi, par exemple, qu'au moment de quelques années après donc la création de l'école laïque par Jules Ferry, spontanément, la plupart des écoles protestantes, qui est bagage au bout d'un temps, les écoles primaires, bon, je crois que la dernière école primaire protestante a rendu l'âme il y a quelques années. C'est peut-être en région du Charles. Alors, les œuvres vont avoir cette caractéristique de se laïciser, disais-je, extrêmement rapidement. Et en même temps, le protestantisme à cette époque-là est vraiment pionnier dans le domaine justement des œuvres sociales. Le protestantisme occupe des créneaux qui n'ont jamais été occupés. Par exemple, nous parlions tout à l'heure du souci des couches populaires, la mission McCall, par exemple, qui va s'occuper des ouvriers, à une époque où c'est le dernier souci de l'Église catholique. C'est aussi le dernier souci des pouvoirs publics, en fin de compte. Et le protestantisme se présente à ce moment-là comme une sorte d'alternative au marxisme. Bien entendu, ça aura un impact certain sur de nombreux ouvriers qui vont se convertir. Mais ça n'a pas changé quand même l'évolution générale des choses. Autre œuvre extrêmement importante qui naît à ce moment-là, c'est la Croix Bleue, l'aide aux buveurs. Bon, la plupart de ces gens qui travaillent dans le milieu populaire sont confrontés avec ce fléau de l'alcoolisme, vers lequel justement le milieu populaire se tourne pour oublier un petit peu leur situation difficile. À cette époque-là, vous le savez, à la fin du Second Empire, un protestant suisse, Henri Dunant, crée la Croix-Rouge. Après la bataille de Sadova, si ma mémoire est bonne, non, une bataille qui avait eu lieu oui, en Italie du Nord, où ce chrétien convaincu qui était Henri Dunant, voyant les blessés, les morts qui gisaient sur le champ de bataille après le combat, a été pris de compassion pour ces gens dont personne ne s'occupait, et avait donc créé la Croix-Rouge, c'est-à-dire une œuvre qui au départ était chrétienne, était protestante, n'est-ce pas, pour porter secours aux victimes des conflits, des conflits humains. À défaut de pouvoir empêcher les conflits, au moins secourir ceux qui en étaient les victimes. Et c'est tout à fait intéressant de voir justement que là aussi, c'est une œuvre protestante qui prend ce fardeau en charge, à une époque où finalement il y avait un service de santé et des armées qui prenaient les choses plus ou moins à la légère, et souvent on laissait mourir les blessés dans des conditions extrêmement terribles, n'est-ce pas? Il suffit de voir par exemple les récits de la retraite de Russie à l'époque de Napoléon pour voir comment étaient traités les blessés qu'on pouvait encore ramener quand on les abandonnait pas sur place tout simplement. Et alors, donc, un ami de Dunant qui s'appelle Rancière, qui est un protestant français, est inspiré par cette création donc de la Croix-Rouge par Henri Dunant, qui a pour mission de venir au nom de l'Évangile en aide aux blessés. Et il ne s'agit pas simplement de venir en aide aux blessés au nom de l'Évangile, mais il s'agit aussi de les évangéliser, de leur parler de Jésus-Christ. Car toutes ces œuvres au XIXe siècle ont une visée d'évangélisation certaine. Ce n'est pas simplement des œuvres sociales en soi, mais c'est en même temps, n'est-ce pas, venir en aide aux défavorisés tout en leur annonçant Jésus-Christ, pour les amener à une décision pour Jésus-Christ. Et donc, Rosaire crée la Croix Bleue. ce qui est le pendant de la Croix-Rouge, si vous voulez, et qui, alors que la Croix-Rouge s'occupe des victimes des conflits, s'occupe, lui, et la Croix-Bleue, des victimes de la guerre. Et se crée un peu partout en France, là où il y a, dans les milieux populaires essentiellement, c'est-à-dire la région parisienne, et puis surtout les ports, les grandes villes portuaires où, évidemment, les marins en goguette sont nombreux et ils ont tendance à taquiner pas mal la dite bouteille. Et c'est la raison pour laquelle, justement, dans ces endroits, se crée un véritable mouvement d'évangélisation, parce que la Croix-Bleue est un mouvement d'évangélisation, en fin de compte, qui s'adresse plus spécifiquement aux buveurs. Il n'y a pas de thérapeutique particulière, il n'y a pas de médicaments, on annonce l'évangile aux buveurs. Et se fait un petit peu ce qui se fait au niveau de l'armée du salut, parce que finalement, tout ça, les méthodes sont les mêmes. La mission McCall, l'armée du salut, la Croix-Bleue, tout ça, c'est finalement la même chose. Sur le plan des méthodes. Et ces buveurs qu'on ramasse dans les ruisseaux, eh bien, on les amène dans une salle, ou dans ce qui se crée à ce moment-là un peu partout, des bars sans alcool, un peu les ancêtres de nos coffee bars modernes. Et là, eh bien, on les soigne, on les ranime, etc. Et puis ensuite, on leur annonce l'évangile. Et ensuite, on les amène à militer dans la Croix-Bleue pour aller vers les autres, justement, ceux qui se trouvent dans leur situation. Et les réunions de Croix-Bleue sont essentiellement des réunions où des anciens buveurs, eh bien, rendent témoignage, disent comment ils ont été délivrés par Jésus-Christ de leur alcool et invitent leurs camarades à s'engager avec eux sur ce chemin d'une abstinence garantie justement par la rencontre avec Jésus-Christ. On trouve aussi à cette époque-là des mouvements de jeunesse. Le protestantisme prend conscience que l'avenir c'est les jeunes et que par conséquent il faut s'occuper des jeunes. Bon. Alors, encore une fois, la situation politique s'y prête à merveille. Et en particulier l'instauration de la laïcité s'y prête. En effet, la laïcité, telle qu'elle a été conçue par les promoteurs de cette idée, eh bien, n'était pas quelque chose qui était anti-chrétien, mais qui était neutre par rapport à l'Évangile. Et il était prévu qu'en dehors des heures de classe officielles où était enseigné tout ce qui était matière profane, il y avait un jour qui était spécialement réservé pour l'enseignement religieux, pour ceux qui le souhaitaient, c'était le jeudi. C'est devenu le mercredi depuis quelques années, mais qui au départ avait pour but non pas de permettre aux enfants d'avoir une coupure dans la semaine, mais uniquement d'avoir un jour qui était consacré à l'enseignement religieux, à tout ce qui pouvait être religieux, activité religieuse. Alors il est évident que pour le protestantisme, c'était idéal, cette institution du jeudi, et c'est ainsi que se sont créées, pour les enfants, les écoles du jeudi et les écoles du dimanche. C'est-à-dire, pour les plus petits, un enseignement de base de la Bible, pour les plus âgés, le catéchisme, et pour coordonner justement tous ces mouvements, s'est créée la Société des écoles du dimanche, qui mettait à la disposition des églises un matériel pédagogique, qui réfléchissait sur les moyens d'évangéliser les enfants, qui organisait des rencontres, des sorties, des camps, enfin bref, tout un ensemble de choses, mais qui avait une visée profondément évangélique, celle justement d'amener les enfants à rencontrer Jésus-Christ. Par la suite, se sont créées des œuvres qui se sont adressées aux plus anciens, et parmi ces œuvres, évidemment, il y a en 1911, un mouvement que nous connaissons bien, le mouvement unioniste, c'est-à-dire le mouvement scout, qui venait d'Angleterre aussi. Encore une fois, on retrouve, n'est-ce pas, cette influence des pays anglo-saxons par l'intermédiaire de Baden-Powell. Et donc, Samuel Williamson voit tout de suite le parti qu'on peut tirer de ce qui vient d'être créé en Angleterre avec un tel succès, et il lance en France, avant qui que ce soit, avant les catholiques, le mouvement des éclaireurs unionistes de France. Il sera imité peu de temps après par les catholiques, Parce que c'est remarquable de voir que les catholiques, à cette époque-là, ne créent rien, n'inventent rien, se contentent de copier d'une manière tout ce qu'il y a de plus. De plagier, n'est-ce pas, avec le suivisme le plus lamentable, ce qui se fait au milieu protestant. Au moment où se crée la croix bleue, les catholiques créent la croix d'or. Au moment où se crée le scoutisme unioniste, il crée les scouts de France. Et on pourrait multiplier les exemples à l'infini. Tout ce qui se fait à cette époque-là est immédiatement copié par le catholicisme, qui lui-même n'invente rien. Alors, le mouvement des éclaireurs unionistes a un succès extraordinaire en France, dans les églises protestantes. Et en même temps, il a ceci d'extraordinaire, c'est que justement, il transcende les différentes dénominations. On peut aussi bien trouver, n'est-ce pas, des troupes scouts dans des églises réformées, que dans des églises baptistes, que dans des églises méthodistes. Enfin bref, dans tout ce qui constitue le protestantisme français à cette période-là. Et les rencontres entre, justement, troupes scouts sont très nombreuses, soit que deux troupes, n'est-ce pas, décident souvent de camper ensemble pour un camp d'été, soit qu'il y a des rencontres plus épisodiques qui se créent, soit des rassemblements régionaux, voire des rassemblements nationaux, qui font qu'il y a là un grand brassage qui se fait au niveau des jeunes, avec une annonce de l'Évangile très très forte, et très très nette, très affirmée. Et le mouvement des éclaireurs unionistes devient un mouvement d'évangélisation, dans ce sens que nombreux sont les non-protestants qui se joignent aux troupes unionistes et qui rencontrent Jésus-Christ. Et au début du siècle, n'est-ce pas, juste, si vous voulez, entre les deux guerres, en fin de compte, jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale et au début des années de l'après-guerre, eh bien, la plupart des pasteurs protestants, toutes tendances confondues, avaient reçu leur vocation à l'intérieur du scoutisme. Étaient la plupart d'entre eux, pratiquement tous d'anciens scouts, scouts unionistes. C'est-à-dire l'extraordinaire impact qu'a eu le scoutisme unioniste à cette période-là. Puis, il faut ensuite voir plus loin, car les jeunes grandissent, et lorsqu'ils ont dépassé l'âge du scoutisme, eh bien, il y a aussi un certain nombre de choses à faire avec eux. Et c'est ainsi que se crée ce que l'on appelle les unions chrétiennes de jeunes gens, qui est aussi un mouvement à l'origine anglo-saxon, qui porte un anglais, Young Men Christian International Association, qui devient en France les unions chrétiennes de jeunes gens. Et ces unions chrétiennes de jeunes gens sont aussi un groupe qui, au-delà de toutes les dénominations, a pour but d'évangéliser les jeunes qui, en général, ont dépassé l'âge du scoutisme, donc qui sont rentrés dans l'âge adulte. Et cela se fait un petit peu, justement, comme un prolongement du scoutisme, par des camps d'été, qui sont mixtes, mais dans le bon sens du terme, n'est-ce pas, et qui sont centrés sur une réflexion biblique profonde. Sur ensuite des activités dans l'année au niveau des jeunes, et qui permet à la fois, n'est-ce pas, aux jeunes des églises de se convertir, et puis aux jeunes de l'extérieur aussi de se tourner vers Jésus-Christ. Alors on voit que nous avons là un protestantisme extrêmement dynamique, extrêmement sain à partir de cette période-là, qui a, à cause de cela, un très très grand impact sur la population, en sorte que l'Église catholique prend peur. Parce que la progression du protestantisme au XIXe siècle est absolument indiscutable. Et un certain nombre de mesures sont prises pour essayer d'enrayer la progression du protestantisme. D'abord, immédiatement, quand le protestantisme crée quelque chose de nouveau, on crée le pendant catholique de la chose, nous l'avons vu tout à l'heure, Croix d'Or, Scouts de France, etc., pour empêcher la progression du protestantisme. Et puis en même temps, eh bien, on essaye de mettre tous les bâtons dans les roues qu'on peut sur le plan politique au besoin, comme c'est le cas en Bretagne, en employant la force. Alors, les choses évoluent aussi sur un autre plan, sur le plan des missions extérieures. Le protestantisme français éprouve le besoin d'évangéliser à l'extérieur. au XIXe siècle, c'est aussi l'époque de l'expansion coloniale, la création des empires coloniaux. C'est peut-être pas la meilleure chose qui ait jamais été faite, mais enfin, c'est un fait avec lequel les protestants français se trouvent confrontés, qu'on le veuille ou non. Et ces gens-là prennent à cœur le sort de ce qu'on appelle à l'époque les indigènes, et on va les évangéliser. Le mouvement d'émission avait commencé aussi en Angleterre un siècle auparavant, notamment avec les grands pionniers de la mission, William Carey et autres. Et le petit protestantisme français, qui souvent reçoit des missionnaires anglo-saxons, lui aussi ne veut pas être en reste, et il entreprend dans les pays de langue française, les pays qui font partie de l'empire colonial français en particulier, un effort d'évangélisation important. Et cet effort se trouve regroupé au bout d'un temps, pour que les choses ne soient pas non plus faites sur un plan isolé, au sein de ce qu'on appelle la Société des Missions de Paris. La Société des Missions de Paris qui collecte les fonds dans toutes les églises et qui ensuite répartit au prorata, n'est-ce pas, de l'importance des églises, des différents champs missionnaires qui sont ouverts, les fonds en fonction, justement, respectant l'individualité de chaque église qui compose la Société des Missions de Paris. Et c'est ainsi qu'un certain nombre de champs missionnaires très importants sont ouverts dans certains pays d'Afrique d'abord, notamment au Lesotho, qui est aujourd'hui, si ma mémoire est bonne, ça doit s'appeler aujourd'hui le Bénin. Ensuite, au Cameroun, où le champ missionnaire est le fait essentiellement des baptistes, c'est le grand champ missionnaire des baptistes français, le Cameroun, jusqu'à aujourd'hui, ça l'est resté, même si aujourd'hui les baptistes ne font plus partie de la Société des Missions de Paris, parce que malheureusement la Société des Missions de Paris, comme bien des institutions donc, qui étaient évangéliques au XIXe siècle, n'est plus évangélique, et souvent les évangéliques se sont retirés de la plupart justement de ces mouvements, donc qu'ils avaient contribué, la plupart d'entre eux, à créer d'ailleurs. Par exemple, la mission Bacol, qui était une mission évangélique, foncièrement évangélique au départ, aujourd'hui n'a plus rien d'évangélique, les évangéliques en sont totalement séparés, c'est devenu, comme on disait, une œuvre politico-marxiste, crypto-marxiste, marxiste, etc. Alors, la Société des Missions de Paris évangélise ces régions de l'Afrique, l'Afrique équatoriale française et l'Afrique occidentale française, comme on les appelle à ce moment-là, c'est-à-dire ce qui correspond en gros au Sénégal de nos jours, la Haute-Volta, le Mali, etc. Le Gabon qui est un grand champ missionnaire qui est marqué en particulier par l'influence du docteur Schweitzer, le fameux docteur Schweitzer. Après la guerre de 1870, Schweitzer, qui est allemand puisqu'il est alsacien, et opte pour la nationalité française et part évangéliser le Gabon. Et alors, cette évangélisation, bien entendu, se fait par l'intermédiaire de ce qu'on appelle des stations missionnaires. Les missionnaires créent des stations. Une station missionnaire est un endroit où il y a bien sûr une chapelle, où l'évangile est annoncé. On invite les indigènes à se tourner vers Jésus-Christ, se détourner de leurs idoles. Il y a un dispensaire, quand on peut se le permettre, un hôpital, avec donc un personnel médical qui est spécialement formé, avec une spécialisation pour les maladies tropicales. Bon, le docteur Schweitzer était à la fois un prédicateur et ensuite un médecin. Il avait créé donc le fameux hôpital de l'Embaréné au Gabon. Il y a ensuite des écoles, avec aussi un personnel qui est formé pour se faire au sein, justement, avec des instituteurs missionnaires, comme on l'appelle. Et alors, il y a, au sein du protestantisme français, des appels permanents qui sont faits pour que des jeunes partent pour les pays d'outre-mer, soit comme pasteur, soit comme médecin missionnaire, soit comme instituteur et institutrice missionnaire. Voilà les trois directions possibles pour ceux qui sont intéressés, justement, par... qui sont l'appel de Dieu pour la mission. À côté de l'Afrique, il y a aussi un champ missionnaire qui est très très important, c'est la Polynésie française, en particulier l'île de Tahiti, qui est évangélisée par les missions de Paris, en sorte que la majorité finalement de la population de ces îles va se tourner peu ou prou vers le protestantisme, plus ou moins bien, avec souvent d'ailleurs un arrière-fond fétichiste et idolâtre du cru, mais en principe, le protestantisme est dans ces îles la religion dominante. Et il en va de même dans les îles comme la Réunion, comme l'île Maurice, qui à l'époque est aussi sous domination française, et enfin Madagascar. Madagascar, qui est le fleuron, si j'ose dire, de la mission, des missions évangéliques de Paris, parce que après des débuts extrêmement difficiles, qui tiennent au fait qu'il y a une reine là-bas qui est très très hostile à l'évangile, qui chasse tous les missionnaires qui sont implantés, qui fait massacrer tous les chrétiens indigènes qui n'apostasient pas, eh bien, un extraordinaire réveil a lieu dans cette île de Madagascar, où des milliers de personnes se tournent vers Jésus-Christ, où des églises extrêmement florissantes ont lieu, et chose aussi extraordinaire, à une époque où on ne parle pas encore de la théologie des charismes, il y a là-bas des manifestations charismatiques certaines, des guérisons, des baptêmes du Saint-Esprit, des prophéties, des parlers en langue, etc., etc. Et un certain nombre de pasteurs maintenant qui font partie de l'union de prière de charme, c'est-à-dire ce qui est charismatique dans l'Église réformée, sont des gens qui ont connu justement ces choses à l'occasion du réveil de Madagascar, soit par leurs parents, soit s'ils sont âgés directement, alors qu'à l'époque, évidemment, ils étaient très jeunes, ils étaient enfants. Alors, voilà, si vous voulez, les différentes œuvres parmi les plus importantes qui ont été créées par le protestantisme. Il y a aussi une œuvre par la littérature. La littérature était évidemment très très importante pour le protestantisme à cette époque-là, puisque le protestantisme, c'est quand même la religion du livre au départ. Elle est née au moment de l'imprimerie, avec donc la diffusion d'écrits, et le protestantisme considéré comme une de ses missions essentielles, la diffusion de la parole de Dieu. Alors là aussi, se crée un certain nombre d'organismes qui sont spécialisés dans cette diffusion de la parole de Dieu, d'abord sur le plan aussi anglo-saxon, où se crée donc l'Alliance biblique universelle à Londres, qui existe encore aujourd'hui, et qui édite, qui a pour charge d'éditer la Bible et de la diffuser dans le monde entier. Pour cela, eh bien, on va rassembler des fonds d'abord, parce qu'évidemment, il en faut, pour imprimer ainsi des Bibles dans toutes sortes de langues. Et puis ensuite, on va traduire la Bible dans d'abord des langues européennes, de façon à pouvoir diffuser la Bible dans les pays qui sont relativement proches. Et puis ensuite, poursuivre l'expansion missionnaire, c'est qu'il faut ensuite fournir à ces champs de mission des Bibles dans leur langue. Et alors, on va former des traducteurs qui vont apprendre les langues indigènes pour pouvoir ensuite traduire la Bible dans ces langues. Et c'est ainsi que l'Alliance biblique universelle a accompli un travail absolument extraordinaire, puisque la Bible est aujourd'hui le livre le plus lu, le plus diffusé dans le monde, le plus imprimé, grâce essentiellement à cette Alliance biblique universelle. Et à l'heure actuelle, elle est traduite dans près de 2000 langues, n'est-ce pas, en totalité ou en partie. Quelquefois, selon le Nouveau Testament, on voit parfois un évangile, etc., seulement ou deux. Mais en tout cas, il y a ce prodigieux effort qui est fait de diffusion de la Bible, dans toutes les langues. Alors, il se crée, bien entendu, en France, une branche de l'Alliance biblique qui a pour charge, justement, grâce à des fonds venus d'Angleterre, d'imprimer la Bible et de la mettre sur le marché à des prix extrêmement bas, de façon à ce que les Français puissent avoir la Bible dans leur langue. Les Bibles sont vendues à perte en France, ça, parce que si elles étaient vendues au prix coûtant, elles dépasseraient les possibilités du français moyen à cette époque-là, et notamment des milieux ouvriers où l'on cherche à la diffuser essentiellement. Et à côté de la Bible proprement dite, il y a aussi création de tout un foisonnement de littérature diverse, n'est-ce pas ? Que ce soit pour les adultes, que ce soit pour les enfants, puis des journaux évangéliques, très 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 nombreux, des journaux protestants. Alors se créent à cette époque-là les grands organes d'expression du protestantisme français, qui sont en même temps des journaux d'information générale, pas simplement des journaux religieux, mais c'est l'époque aussi de l'expansion de la presse sur le plan français, sur le plan mondial. La radio n'existe pas, la télévision n'en parlons pas. Et les médias les plus importants sont les journaux. Et vous avez un foisonnement de journaux de tout poil en France, n'est-ce pas? Il y a des dizaines et des dizaines de titres, alors qu'aujourd'hui, les grands quotidiens français se réduisent à une poignée, ils sont nommés les quotidiens régionaux. À cette époque-là, vous avez toutes sortes de feuilles de choux qui sont lancées sur le marché. Alors, le protestantisme profite de cette grande expansion de la presse écrite, et en particulier à deux journaux qui sont officiels, et qui expriment la voix du protestantisme dans tout ce concert de la presse nationale. C'est le christianisme du 19e siècle, qui deviendra évidemment à partir de l'année 1900 le christianisme au 20e siècle, pour une raison facile à comprendre, qui existe encore aujourd'hui, et qui est encore aujourd'hui le journal d'expression de l'Église réformée, enfin, ainsi que l'Église réformée, qui aujourd'hui, hélas, est tombé dans un tirage ridiculement bas, mais qui à l'époque tirait à des milliers et des milliers d'exemplaires. Ensuite, il y avait le journal Réforme, et puis à côté de cela, il y avait une foule de journaux, soit des journaux régionaux, qui étaient l'expression d'un consistoire, qui étaient l'expression d'une région ecclésiastique, ou bien des journaux plus spécialisés. Les salutistes avaient leur journal En Avant, qui était un journal d'évangélisation. Les éclaireurs unionistes avaient leur journal, la Croix Bleue avait son journal, etc., etc. Enfin, il y avait tout un foisonnement, n'est-ce pas, de journaux divers qui répandaient ainsi la parole de Dieu au sein du peuple français. Et non seulement les églises étaient les relais, n'est-ce pas, par lesquels était diffusée cette littérature, mais également il y avait les colporteurs bibliques. Et les colporteurs bibliques ont joué dans l'expansion du christianisme du protestantisme au XIXe siècle un rôle essentiel. Les colporteurs bibliques étaient des gens qui allaient de lieu en lieu en proposant la parole de Dieu aux gens. Le soir, d'ailleurs, ils les invitaient à des réunions et les exhortaient à se tourner vers Jésus-Christ. De nombreuses églises, à cette époque-là, ont été fondées par l'œuvre des colporteurs. Alors, les colporteurs évidemment diffuser la Bible, diffuser de la littérature évangélique, diffuser aussi, chose très importante, des calendriers évangéliques, des calendriers à effluer qu'on appelait à l'époque des almanachs, qui contenaient non seulement donc le calendrier proprement dit, mais une foule de renseignements sur oui, c'est ça, ce qui concernait les lunes, ce qui concernait les saisons, ce qui concernait les grandes saisons agricoles, quand est-ce qu'il fallait semer, quand est-ce qu'il fallait moissonner, etc. Enfin bref, tout un ensemble de renseignements pratiques sur le plan aussi de la santé, de l'hygiène, qu'est-ce qu'il fallait faire en cas de ceci, en cas de cela, etc. Une époque où donc, forcément, les communications étaient beaucoup plus restreintes qu'aujourd'hui, eh bien, les gens achetaient ça parce que ça les intéressait. Alors, ils avaient soit tout simplement une besace dans laquelle ils avaient leur littérature, soit ils avaient carrément une espèce de charrette ou roulotte tirée par des chevaux, etc. Et ils allaient de ville en ville, de village en village, pour proposer ainsi la parole de Dieu. Et en Bretagne, par exemple, il y a eu des colporteurs qui sont restés célèbres jusqu'à aujourd'hui, dans la région justement des Côtes du Nord en particulier, où ils ont agi d'une manière tout à fait importante. Alors, aujourd'hui, évidemment, que reste-t-il de tout cela? Eh bien, la plupart de ces œuvres-là demeurent, souvent d'ailleurs récupérées par l'Église réformée. Pourquoi? Parce que tout ce protestantisme qui était si divers, eh bien, entre les deux guerres, a connu un grand tournant. D'abord, il y a eu toute la grande crise libérale que nous avons étudiée, et le conflit entre orthodoxes et libéraux. Un conflit qui traversait bien des églises, et qui aboutissait à des positions extrêmement figées, extrêmement fermes. Et entre les deux guerres, on a cherché à dépasser ce conflit, en particulier au niveau des facultés de théologie, j'ai oublié de noter les instituts de théologie qui ont aussi joué un très grand rôle au XIXe siècle. Alors il y avait différents instituts de théologie, celui de Paris, la faculté de théologie de Montpellier, et puis, il y avait également une faculté de théologie à Montauban. Et enfin, il y avait la faculté de théologie de Strasbourg, mais qui, évidemment, entre 1870 et 1914, ne faisait plus partie de la France, était allemande. Alors, ces facultés de théologie ont été le théâtre, évidemment, des grands affrontements entre libéraux et orthodoxes, En sorte qu'un certain nombre de gens ont répudié les facultés de théologie. Et alors on a dit, bien à côté de cela, il faut permettre aux laïcs, comme on les appelait, aux gens qui veulent s'engager dans l'œuvre de Dieu, d'avoir une formation biblique de base. Par exemple, l'école Porter, les institutrices et les instituteurs missionnaires qui partaient en Afrique ou en Polynésie ou ailleurs. Tous les gens qui étaient engagés en œuvre de Dieu au niveau du scoutisme, les cadres du scoutisme, les cadres de la Croix-Bleue, etc. Et gens qui n'étaient pas destinés au pastorat. Alors on a créé pour eux ce qu'on appelait des instituts bibliques, qui, sur un temps plus court, 2 ans en moyenne, 2-3 ans, donnaient une formation biblique de base. Et en même temps, qui était une réaction aussi contre le libéralisme qu'il y avait dans la plupart des grandes facultés de théologie. Parmi les principaux instituts bibliques qui se sont créés à cette époque-là, on note l'Institut de Nogent, l'Institut de La Morlaix, à côté de Paris, l'Institut de Chatou, l'Institut de Lausanne, pour ce qui concernait la Suisse francophone, l'Institut de Bruxelles, pour ce qui concernait la Belgique, pour les principaux. Et ces instituts, donc, ont joué un rôle très très important aussi, en particulier aussi même sur le plan missionnaire. Et alors, entre les deux guerres, on s'est dit, bon, dans le fond, il faut... La tendance était à l'unification du protestantisme. Il faut qu'on dépasse cette querelle entre libéraux et orthodoxes. Et en particulier, on a proposé, au sein de la Fédération protestante de France, un regroupement de toutes les églises dans une grande église unie. C'était en 1938 qu'a eu lieu cette fusion. Et à partir d'une formule où, au moment de l'ordination, le pasteur prêtait le serment suivant, lui demandait « Êtes-vous donc déterminé, avec la grâce de Dieu, de prêcher l'Évangile tel que...